La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête.
Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Et donc au menu de notre club en ce vendredi, le nombre pi. Nous évoquerons également un épisode dramatique avec la grippe espagnole et puis les mots des bobos. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et ça va gronder aujourd'hui à la une de la science.
Oui, puisqu'on s'envole avec la mission Hexaèdre en Corse pour étudier de très près les orages.
C'est Fanny Boyon qui réalise ce club qui a été préparé aujourd'hui par Hannibal Wachi.
La tête au carré, le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et avec nos invités nombreux aujourd'hui autour du micro, Laura Spinel, Laure Vatrin, Sophie Bécherel et Jean-Paul Delahaye. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue Jean-Paul Delahaye, le fascinant nombre pi. C'est donc le livre que vous publiez aux éditions Belin autour de cette star incontournable des mathématiques. Et c'est une véritable enquête que vous avez menée parce qu'il y a encore pas mal de mystères à découvrir autour de pi.
Ah oui, il y a toutes sortes de conjectures qu'on ne sait pas démontrer aujourd'hui, qu'on suppose à cause des calculs qu'on fait, mais qui restent des mystères.
De quoi rendre fous les mathématiciens ?
Pour longtemps encore.
Oui. Laure Vatrin, vous publiez avec le camarade Thomas Legrand Les 100 mots des bobos après la République des bobos, que vous avez publié en 2014. Vous revisitez donc cette fois les mots qui nous permettent de mieux cerner la boboïtude. C'est fou comme ce mot bobo, d'ailleurs, a une consonance péjorative.
Oui, d'ailleurs, je précise que ces mots M-O-T-S et pas M-A-U-X. Oui,
mais ça pourrait.
Ça pourrait. Ouais. Oui, c'est effectivement très souvent péjoratif dans l'esprit des gens. C'est très souvent employé comme mot. Et on a voulu justement s'attacher en 100 mots à réhabiliter cette catégorie de la population.
Et on rit beaucoup en lisant votre ouvrage.
Bah,
on aura l'occasion d'en parler donc tout à l'heure. Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour.
Votre coup de cœur, Sophie, cette semaine, c'est un livre sur la grippe espagnole.
Oui, fruit d'une enquête de 3 années réalisée par une journaliste et écrivain scientifique, La Grande Tueuse, est publiée aux éditions Albin Michel. C'est un récit passionnant qui sort à l'occasion du 100e anniversaire de la grippe espagnole. Et une grippe dont l'ampleur a un peu été oubliée, hein, Laura Spinet.
Absolument, oui. Je pense que déjà le nom est trompeur. Ce n'était pas une pandémie espagnole, ou pas que espagnole, mais planétaire. Et en plus, elle a été occultée par la Première Guerre mondiale avec laquelle elle a coïncidé. Et donc, oui, on a un peu oublié.
Combien de morts à peu près ?
Entre 50 et 100 millions de morts.
Voilà, incroyable. On va donc évoquer cet épisode dramatique avec vous dans un instant à l'occasion de la sortie de votre livre. Et puis, on se retrouve bien sûr avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque avec tous les messages. Et on va parler aujourd'hui d'une expédition d'un mois pour étudier les orages en Corse. Axel, c'est notre une de la science aujourd'hui.
Doc, vous êtes mon seul espoir.
Pardon, Marty, mais la seule source d'énergie capable d'engendrer une puissance de 2,21 gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. Malheureusement, on ne peut jamais savoir où et quand elle va tomber.
Mais si on le sait.
Eureka ! C'est écrit ici. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 dans la nuit de samedi prochain.
Alors la mission dont on va parler, nous, s'appelle Hexaèdre et elle ne va pas permettre de prédire les impacts de foudre comme dans Retour vers le futur, mais ses ambitions sont tout de même de taille. La trentaine de chercheurs du CNRS, du CNES et de Météo France compte bien profiter au maximum de la saison des orages qui commence en Corse.
Alors comment ça profiter, Axel ?
Ah bah, ils vont tout simplement monter dans un avion, un Falcon 20 suréquipé et survoler les cellules orageuses très près pour recueillir un maximum de données. Pour en discuter, on va accueillir notre invité, Pierre Tabary. Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Atmosphère pour le Centre National d'Études Spatiales. Alors commençons peut-être par rassurer tout le monde. Les équipes d'Hexaèdre ne vont pas prendre de risques particuliers pendant la mission.
Non, non, bien sûr, tout sera fait pour assurer la sécurité des nombreuses personnes qui seront mobilisées. Donc comme vous l'avez dit, pour une durée d'un mois en Corse. Donc avec des déploiements effectivement d'un avion qui est un véritable laboratoire volant hein, qui embarque toute une série d'instruments et des scientifiques référents, mais aussi au sol avec des moyens à la fois fixes et mobiles qui vont permettre de faire des enregistrements de l'activité électrique et aussi d'un certain nombre d'autres paramètres qui sont pertinents pour l'étude des orages.
Alors c'est pas tous les jours qu'on a un laboratoire avion à notre disposition. Quels sont les équipements qui vont être mis dans ce Falcon 20 qui sont déjà installés d'ailleurs ?
Alors il y a de nombreux instruments. Il y a notamment un instrument qui porte un nom un peu amusant, c'est RASTA. Donc c'est un radar, hein, donc un système qui émet des ondes électromagnétiques qui vont se propager à travers l'atmosphère et interagir avec les gouttelettes, les cristaux ou les grêlons. Et avec cet instrument, on est capable de reconstruire le profil vertical du nuage depuis son sommet jusqu'au sol. Donc ça, c'est un premier instrument dit de télédétection. Hein. On va ausculter l'intérieur du nuage à distance. Et il y aura aussi à bord du Falcon donc des instruments qui vont mesurer le champ électrique et également la taille et la forme des particules. Donc c'est une caméra qui est capable de distinguer les gouttelettes de pluie, les cristaux, les grêlons. Et ça, c'est une information qui est absolument critique pour comprendre les conditions de déclenchement des éclairs.
Mais justement, alors, quelles sont les propriétés des orages et des éclairs qui sont encore mal comprises ou inconnues ?
Alors, il y a un lien qui est encore très mal compris. C'est justement celui entre la microphysique, hein, donc ce qu'on appelle la microphysique, c'est la composition du nuage, voilà, est-ce qu'il est constitué de gouttelettes d'eau, est-ce qu'il est constitué de grêlons, est-ce qu'il est constitué de cristaux de glace, et si oui, quel type de cristaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété de formes pour les cristaux. Donc faire le lien entre cette composition microphysique et donc les décharges électriques. Et année après année, on comprend de mieux en mieux la physique sous-jacente, mais il est encore nécessaire de collecter des informations pour mieux préciser ce lien. Donc il y a des enjeux de connaissance, mais aussi derrière il y a des enjeux de modélisation, parce que si on est capable de mieux comprendre cette relation, alors on sera demain mieux capable de prédire au moins la sévérité des orages et leur capacité à générer de la foudre.
Alors il y a aussi un volet climatique à cette mission Exaèdre, parce que dans un monde qui se réchauffe, on ne sait pas vraiment à quoi vont ressembler les orages.
Alors absolument, il y a une grande incertitude avec le changement climatique, c'est comment vont se redistribuer à l'échelle globale les nuages et les précipitations. Voilà, est-ce qu'il pleuvra plus ou moins en Europe, aux hautes latitudes, dans les tropiques, comment vont évoluer les types de nuages, la forme des nuages. Donc ça, c'est des grandes inconnues qui sont importantes parce qu'elles jouent ensuite sur le bilan radiatif de la planète. Et donc il y a un certain nombre d'instruments, notamment embarqués sur les satellites, qui sont maintenant capables de fournir des données sur plusieurs décennies. Et on a besoin de cet horizon temporel pour être capable d'identifier des tendances sur le long terme. Et donc dans le domaine de l'activité électrique, il y a notamment un instrument qui va être embarqué sur une mission européenne qui s'appelle Meteosat 3e génération, qui devrait être lancé en 2021 et qui devrait assurer 20 années d'observation en continu de l'activité électrique sur l'Europe et l'Afrique.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Tabary, et puis bonne mission orageuse en Corse, hein, donc ça commence la semaine prochaine.
Hein. Oui, on vous souhaite mauvais temps, d'ailleurs.
Voilà, bah oui, plus il y aura mauvais temps et plus il y aura de connaissances. Merci beaucoup, Pierre Tabary. À bientôt, et Axel, à lundi.
À lundi.
Voilà, petit souvenir de l'année 1989 avec Jimmy Somerville.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Voilà, donc au menu cet après-midi, nombreux grippe espagnole et les mots des bobos avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On va commencer donc avec les 100 mots des bobos que vous publiez lors Vatrin avec Thomas Legrand aux éditions Que sais-je. Sujet qui semble inépuisable, hein, puisqu'après La République Bobo, publié en 2014, vous livrez votre nouveau travail sur la question. C'est un abécédaire, donc, pour voyager dans ce pays de la boboitude. Comment d'ailleurs a été inventé le mot au départ? Vous êtes allé à la racine, on retrouve sa trace assez facilement?
Oh oui, assez facilement, puisqu'en fait, c'est un journaliste américain qui, en l'an 2000, a inventé ce néologisme, donc contraction de bourgeois et bohémienne, bourgeois-bohème. Alors, à l'époque, il était plutôt destiné à qualifier, on va dire, la bourgeoisie éclairée du 21e siècle de la côte ouest ou est, avec l'archétype du couple Clinton.
Ouais.
Et puis, il a traversé l'Atlantique, ce mot, repris par des journalistes, puisque vous pouvez interroger des sociologues, en général, ils n'aiment pas beaucoup ce mot.
Ouais.
Ils considèrent que c'est une construction médiatique, journalistique, et qu'elle ne correspond pas à leur grille de lecture de la société et de la sociologie. Et donc, il a traversé l'Atlantique pour désigner une catégorie de population dont on peut s'attacher.
Exactement. Donc nous, on l'a gardé en France, alors que les Américains, ils l'ont plutôt oublié, ce mot.
Oublié. Ouais.
C'est devenu complètement has-been de parler de
bobo
là-bas.
Complètement has-been. Enfin, c'est même pas has-been, c'est que
ça n'a plus de sens.
Ça n'a plus vraiment de sens, sauf si on leur réexplique la contraction. Et pourtant, le livre avait eu beaucoup de succès à l'époque quand David Brooks, donc le nom de ce journaliste, avait publié ce livre Bobo in Paradise.
Alors le mot bobo, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Alors bourgeois bohème, certes, mais c'est aussi, vous le dites, une personne dont le capital culturel élevé a plus de poids que le capital économique variable.
Alors, ça peut sembler être un oxymore, le mot bobo, hein, parce que associer le mot bourgeois et le mot bohème, déjà en soi, ça ne va pas de soi. Alors effectivement, c'est une catégorie de la population très hétérogène qui, en fait, a un capital culturel très très élevé qu'elle a pas forcément, dont elle n'a pas forcément hérité, mais qu'elle a pu construire grâce à l'école, la démocratisation de l'accès à la culture. Et pour elle, ce capital culturel a beaucoup plus d'importance que le capital économique beaucoup plus variable. Il y a des bobos aisés et puis il y a des bobos qui vivent avec 1000 euros par mois, voire un peu moins. Enfin, en général, ils ne sont pas à la rue non plus, hein, parce qu'il y a d'autres urgences à ce moment-là. Et donc, c'est ce capital culturel qui va finalement les aider à choisir les valeurs qui seront les plus importantes pour eux, en général les valeurs progressistes.
Hein. Voilà. On les trouve partout les bobos, parce qu'ils ne sont pas que parisiens, ils sont
c'est
non seulement
voulu,
un
d'ailleurs,
peu partout en France, mais aussi dans le monde entier.
Oui, effectivement. Donc, on a d'ailleurs une entrée dans le livre parisien, on aurait pu mettre point d'interrogation parce que ils ne sont pas que parisiens, contrairement à ce que peuvent souvent croire les gens qui assimilent les bobos aux snobs en fait, et un petit peu aux gens déracinés, déconnectés, hypocrites, ce que sont souvent les parisiens aux yeux des autres. Non, je plaisante. Donc ils ne sont pas du tout que parisiens, on les trouve à Bordeaux, on les trouve à Lyon,
on les trouve
dans les grandes villes
chez Jean-Paul Delahaye,
mais bien
exemple,
sûr, on les trouve à Lille, on les trouve
en
à Marseille,
Écosse aussi, dans la région natale de notre invité.
Alors en général, ils vivent dans des villes, même s'il y a les néo-ruraux qui sont bobos également, qui ont un fort capital culturel et qui sont partis s'installer à la campagne pour plein de raisons. Et puis, effectivement, ils ne sont pas que français. Loin de là.
Absolument, il y a plein de quartiers dans plein de villes.
Berlin,
du monde.
Stockholm,
absolument.
Même Amman, où on s'est baladé et où on a découvert une niche bobo en Jordanie.
Ouais. Parfait. Alors derrière le mot bobo, il y a aussi tout de suite après le bobo bashing, qui rejoint ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure sur la connotation péjorative du mot. Et tout le monde l'emploie. Ils sont maltraités quand même, les bobos. Hein.
Ah ouais, et puis en plus, personne ne. Enfin, peu de monde se revendique bobo. En fait, nous, on a eu envie d'écrire ces deux livres parce que c'est vrai que c'est un mot qui revient sans cesse, qui maintenant fait partie du vocabulaire au courant. Donc, qui est souvent péjoratif, un mot un peu fourre-tout, qui est utilisé notamment dans les campagnes électorales, aussi bien par la gauche que par la droite, pas avec, une exception qui est péjorative. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient. On avait tous un peu l'idée, quand on l'utilise, de ce que ça veut dire, mais ça n'avait pas une définition finalement très précise, alors que ça avait du sens. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaché à définir ce mot, malgré l'avis des sociologues, en se disant que s'il a du sens, c'est qu'il a une réalité. Et bizarrement, ce mot n'a absolument pas disparu en France, alors que ça fait 10 ans qu'on dit que les bobos vont disparaître, que c'est un phénomène de mode. Mais en fait, c'est plutôt une porte d'entrée dans la société et dans le monde tel qu'il évolue.
Vous vous souvenez de la chanson de Renaud, évidemment, sur les bobos. Très bonne définition d'ailleurs de Renaud.
On On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe, mais vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos.
Voilà, alors Vatrin, Renaud qui chante les bobos, qui serait d'ailleurs lui-même bobo, sinon on peut le classer parmi les bobos, non?
Oui, j'imagine, hein, enfin, ouais. Faudrait lui demander ensuite, mais moi je pense, oui, effectivement, a priori, il y a quand même fort capital culturel, après, et des valeurs aussi communes. C'est vrai qu'on est souvent dans les caricatures au départ quand on parle des bobos, et qu'en creusant un peu, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi manichéenne ou caricaturale, et que finalement c'est un groupe, une catégorie de population qui est utile.
Oui, mais c'est ça, parce que quand même, malgré tout, ils portent des valeurs, même si ça peut paraître agaçant, hein, de la part d'une partie de la population. Mais sur la question du bio, par exemple, on se moque beaucoup des bobos, hein, pour évidemment cet attachement à la nourriture biologique, mais n'empêche que ils ont quand même participé aussi à l'essor de ce secteur alimentaire.
Oui,
là.
Alors avec évidemment toutes leurs contradictions, parce que les bobos ne sont pas parfaits, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'ils ont contribué, alors au début, quitte à acheter du bio qui pouvait venir de n'importe où,
oui, c'est ça, oui,
à n'importe quel prix. Et puis finalement, comme d'abord la crise économique est passée par là, et puis aussi parce que les bobos n'ont pas tous un portefeuille extensible, ils ont commencé à s'intéresser au circuit court, au local, et à promouvoir finalement des formes d'agriculture qui sont loin de l'agriculture dite conventionnelle, et parce que ils ont conscience comme d'autres de la finitude de la planète, quoi.
Il y a les AMAP, hein, comme entrée évidemment dans cet ouvrage. Sauf que aussi, oui, il y a beaucoup de paradoxes et de contradictions chez les bobos, qui ont par exemple un bilan carbone parfois assez catastrophique, parce que ce sont quand même les premiers à prendre l'avion, à sauter dans un TGV pour aller se nourrir de culture, parce que c'est quand même leur obsession, hein, la culture. Hein.
Oui, et puis le voyage fait partie de leur badlaine, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment une façon pour eux de construire leur capital culturel. Et d'ailleurs, c'est un goût qu'ils transmettent à leurs enfants. Nous, on est toujours fascinés de voir que des gamins, quand les parents ont un peu les moyens, quand même, hein, évidemment, mais
on les emmène partout.
On les emmène partout. Oui. Enfin, et ça fait partie du style de vie, quoi.
C'est vrai, absolument. Une question pour vous de Laura Spinet, qui a certainement des bobos à Londres aussi.
Non,
hein.
Mais j'essaie justement de trouver l'équivalent en anglais. Mais qu'est-ce que vous disiez
Bourgeois bohème.
C'est la contraction de bourgeois bohème.
On ne dit pas ça.
Non, vous ne dites pas ça.
Métropolitain, je ne sais pas. Si on associe ça avec les gens qui lisent le Guardian, ou je sais pas, ou qui votent pour anti-Brexit.
Oui, c'est ça. Les valeurs portées par ce groupe très hétérogène, encore une fois, hein, parce qu'on trouve aussi bien des infirmiers, des éducateurs sociaux, que des webmasters, ou des journalistes, ou des gens qui travaillent avec des professions intellectuelles, des professeurs aussi. Bon. Donc c'est une nébuleuse, mais qui porte en fait des valeurs qui sont, lutte contre le racisme. Alors, chacun à leur niveau, sont plutôt pour le féminisme, pour
la mixité.
La mixité, effectivement, sociale.
Il y a le bobo mixeur.
Oui,
mais en Angleterre, ils ont sûrement voté contre Brexit, donc je pense que c'est très important.
Et moi,
j'ai lu Le Guardian d'ailleurs. Juste pour.
Jean-Paul Deleuil, notre mathématicien.
La question que je me posais, c'est est-ce que nécessairement un bobo est de gauche?
Ah, c'est une bonne question. Alors, tous les bobos ne sont pas de gauche, mais il y a quand même un tropisme, c'est vrai. Il y aura des bobos de droite aussi, mais c'est vrai que une partie des valeurs portées par les bobos ou qu'ils contribuent à promouvoir font que en général ils votent plutôt à gauche. Et d'ailleurs les élections municipales de 2001, c'est les bobos qui ont contribué à faire basculer Paris à gauche, et d'autres villes comme ça, avec ce paradoxe qui était que le niveau de vie augmentait des habitants, et en même temps ils votaient plus à gauche.
Est-ce qu'il y a un mot pour désigner donc un bobo qui serait de droite?
Oh non, parce qu'on n'est pas
les
non plus.
Il aurait toutes les caractéristiques, sauf qu'il serait de droite.
Il est bobo. S'il porte des valeurs progressistes et.
Un bobard suggère Fanny Boyon, notre réalisatrice. Un bobo de droite, c'est pas mal, non? On prend, c'est une très bonne idée. Ouais. Alors, justement, il y a un message de Jean-François qui nous dit ce qui est agaçant avec les bobos, souvent des urbains et cosmopolites, c'est qu'ils sont donneurs de leçons en matière de nourriture écolo, et plus souvent dans le style de vie. Mes voyages de par le monde en low cost ont une empreinte carbone et ont une profonde ignorance de la campagne, sont très arrogants vis-à-vis des couches plus populaires et souvent snobs. Et ben voilà.
Et ben ils en ont pris pour leur grade, là, on y est. Ben oui, ben c'est les fameuses contradictions. Ben oui, effectivement, c'est comme on dit que les bobos défendent la mixité et l'égalité, mais font du contournement de la carte scolaire. Tout ça est vrai, mais il faut encore une fois aller au-delà de la caricature. Et nous, on a tendance à dire que c'est un groupe qui finalement essaye de concilier des contraires et donc essaye de s'adapter au monde tel qu'il est en train d'évoluer aussi. Et plutôt qu'hypocrite, on préférerait le mot concilier. Voilà. Mais c'est hypocrite peut-être comme réponse.
Dans la vie, il y a souvent deux écoles, Beatles ou Rolling Stones, slip ou caleçon. Les bobos n'ont pas tranché pour tout, mais pour l'informatique, oui. Steve Jobs a su créer des outils ou intégrer des applications dont ont besoin les vidéastes, photographes, graphistes, bref. Apple, c'est leur dieu absolu, quoi.
Oui, et en même
temps, quand on est bobo, on est Apple.
Et en même temps, ils savent bien que tout ça n'est pas toujours fait dans les meilleures conditions,
absolument,
que la culture start-up du départ a largement évolué. Donc, ça fait partie de leur culpabilité, parce que les bobos culpabilisent beaucoup en essayant d'inventer des choses ou d'avoir un mode de vie. Parce que c'est ça aussi, ils essayent. En tout cas, ils disent être un petit peu au départ dans la contre-culture, ils essayent de fuir la consommation de masse, le voyage de masse, donc ils contribuent à promouvoir des consommations de type collaborative, et ce faisant, ils tombent dans l'ubérisation de la société. Donc,
c'est ce que dit Jean-François à propos des contradictions, le summum et le bobo qui va dire aux autres qu'il ne faut pas manger de la viande parce que l'animal souffre, mais qui n'a pas conscience que son quinoa vient d'Amérique du Sud et qu'il est cultivé par des enfants. Exemple parmi tant d'autres.
Et Apple fait partie aussi de ces contradictions.
La boboitude, est-ce que c'est l'apanage justement du citoyen blanc urbain à fort capital culturel? Il est surtout blanc le bobo quand même ou pas?
Il est peut-être plus blanc effectivement, mais en même temps la démocratisation de l'enseignement, de l'accès à la culture fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes issues de l'immigration finalement se retrouvent dans cette catégorie sociale également.
Ouais. Il y a une entrée bobo-drame, alors quelques exemples de drames de la vie quotidienne chez les bobos. Se retrouver dans une ville où le fooding ne recommande aucun établissement.
Ne seriez-vous vous-même pas un peu bobo?
Ben voilà, c'est qu'on va tous voir fooding pour voir ce qu'on peut manger de bien et surtout trouver les bonnes adresses, mais ça fait partie des drames, ou surprendre le fils en train de jeter une peau de banane dans la poubelle à papier, d'accord, ou si leur fille n'a pas envie de jouer aux petites voitures et leur fils d'apprendre à cuisiner. Ah oui, c'est ça.
Parce que le genre
est très mal vu.
On essaye de déconstruire les constructions sociales.
Brooklyn, c'est la capitale internationale des bobos. Voilà ce qu'on apprend également dans cet ouvrage.
Oui, alors avec tout ce que ça peut comporter de caricatural aussi, puisque dans l'esprit des gens, on pense que Brooklyn est peuplé de hipsters avec des barbes micro-taillées, des tatouages et toute la panoplie qui va avec. En fait, Brooklyn est un borough, un arrondissement de New York qui est très divers, très mixte, qui s'est construit avec des couches successives d'immigration. Et c'est toute cette diversité aussi qui attire le bobo. C'est pas seulement les hipsters qui remettent au goût du jour les bières artisanales et le café de spécialité.
Oui, Laura Spinet.
Vous vous considérez comme bobo?
Oui. Oui, je pense. Et franchement, il n'y a pas de honte à être bobo. Et on s'est rendu compte en écrivant notamment le premier livre que c'était assez drôle. Il y avait des gens qui finalement, au départ, c'était mais moi je suis pas bobo. Lui, il est bobo. Alors par exemple, on discutait avec quelqu'un qui habitait donc en plein cœur de Paris, dans le Marais, qui pour nous d'ailleurs aujourd'hui n'est plus tellement bobo, mais plutôt bourgeois à code bobo, puisque les prix ont tellement augmenté qu'on n'a plus vraiment les moyens d'y vivre. Et donc les gens qui étaient dans le Marais vous disaient mais les bobos c'est ceux de Bagnolet, de la banlieue nord-est de Paris. Et puis, ceux de Bagnolet vous disaient, mais les bobos, c'est ceux qui ont de l'argent et qui sont en train de manger du quinoa, justement, ou des toasts à l'avocat dans le Marais, dans les coffee shops importés de New York. Donc, on est toujours le bobo d'un autre. On n'a jamais vraiment conscience, en tout cas, on ne revendique pas le fait d'être bobo. Mais finalement, nous, on assume le fait d'être bobo.
La gentrification, c'est une maladie grave causée justement par les bobos, ça c'est vrai.
Ouais. D'ailleurs, en français, le synonyme de gentrification, c'est boboisation.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on dit boboisation, on comprend bien que ça veut dire qu'une nouvelle catégorie est arrivée dans un quartier ou dans une ville et que les prix ont augmenté. Simplement, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas les bobos qui ont chassé les artisans, qui ont désindustrialisé des quartiers ou des villes. Ils sont arrivés là où, il y avait des espaces vacants, les fameux fameux espace atypique, les lofts, usines et compagnie. Et puis, bah, ils les ont retapés, pas souvent avec beaucoup d'argent, mais avec beaucoup d'imagination et de créativité, parce qu'ils avaient souvent aussi les jobs qui allaient avec, créateurs notamment, ou designers. Et du coup, évidemment, de façon mécanique, bah, ça prend de la valeur. Et puis, bah, là-dessus, il y a les promoteurs, le marché immobilier. Mais on est en France, et normalement, on doit pouvoir essayer de faire une gentrification un petit peu maîtrisée, contrairement à Brooklyn par exemple.
Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, terre de Sommières, savon de Marseille, savon noir liquide, les placards des bobos sentent le vintage et les méthodes alternatives. Oui. Voilà, plein d'entrées dans cet ouvrage. Ça s'appelle Les 100 mots des bobos avec Thomas Legrand et c'est aux éditions Que sais-je. Vous restez avec nous, Laure Vatrin. On va parler d'une vraie maladie grave dans un instant, c'est la grippe espagnole. Et c'est par 16 à l'instant.
La tête au carré, le club.
C'est une lettre bien sombre que je t'écris, mon pauvre chou. Depuis quelque temps, il y a ici comme une sorte d'épidémie. Le docteur Bertin appelle ça la grippe espagnole. Depuis quelques jours, Marianne a une forte fièvre. Le docteur a interdit aux enfants de voir leur mère et il voulait, moi aussi, m'empêcher d'aller voir ma fille, le vieil imbécile. Je reste près d'elle toute la journée. Parfois, elle n'est pas trop mal et... parfois, elle délire.
La guerre est finie, madame. Ils ont signé l'armistice.
Voilà un extrait des Dames de la Côte, Nina Companese, dans les années 80, pour évoquer donc la grippe espagnole, avec votre invité, puisque c'est cette semaine votre coup de cœur, Sophie Becherel.
Oui, donc 1918-2018, ce sont les 100 ans de la Première Guerre, mais aussi de la grippe espagnole. Et effectivement, Laura Spinet, peut-être qu'en Europe, en tout cas, la guerre a occulté cette pandémie mondiale qui pourtant, vous le disiez tout à l'heure, a fait de 50 à 100 millions de morts. Donc ça a été totalement dévastateur. Donc le premier cas, on le trouve en mars 1918 au Kansas, aux États-Unis. Et puis l'épidémie va durer 2 ans. Alors où, par où passe-t-elle et puis comment elle se propage ?
Elle se propage en trois vagues. Dans le premier, au printemps 1918, était pas trop grave. C'était très, ça ressemblait beaucoup à une grippe saisonnière. Et puis revenait une deuxième vague fin août, septembre, où qui était beaucoup plus létale. Et en fait, la majorité des morts sont arrivées entre le mi-septembre et le mi-décembre 1918. Puis il y avait une troisième vague dans les premiers mois de 1919. Qui était intermédiaire entre les autres, les deux autres en sévérité. Et donc ça fait le tour du monde, à quelques exceptions près. L'Australie a mis en place une quarantaine maritime assez efficace qui s'est protégée en fait de la deuxième vague. Mais ils l'ont levée trop tôt, ils ont laissé entrer la troisième vague, donc 12 000 Australiens ont perdu leur vie en 1919. Mais oui, c'était vraiment planétaire.
Pour quelles raisons est-ce que certains pays sont plus touchés que d'autres? Et puis surtout, à l'époque, comment est-ce qu'on fait face? Votre livre est une enquête exceptionnelle. On se dit, mais où est-elle allée récupérer toutes ces informations? Mais pour quelles raisons, finalement, il y a plus de morts en Indonésie, enfin que les Kenyans, par exemple, meurent plus que les Écossais, les Indonésiens plus que les Hollandais?
Mais c'est vrai, il y avait une énorme variabilité en mortalité à travers le monde. Et on ne comprend pas complètement pourquoi. Il y avait sûrement beaucoup de facteurs qui ont contribué. Mais déjà, le monde était en guerre. Donc beaucoup de populations étaient fragilisées par la guerre, avaient faim ou étaient déplacées, des réfugiés, des troupes en mouvement, même des civils en déplacement aussi. Et donc il y avait des faims. Et puis aussi, vous voyez, c'était les populations même avant la guerre qui étaient plus pauvres, qui étaient démunies, qui n'avaient pas d'accès aux médecins, qui étaient mal nourries, qui étaient les plus vulnérables. Et en plus, il y avait évidemment pas d'antibiotiques à l'époque, donc beaucoup du monde avait d'autres maladies en même temps, donc tuberculose était un grand problème. Si on avait la tuberculose, on était déjà plus vulnérable à une autre maladie respiratoire.
Alors justement, il n'y avait pas, comme vous le disiez, de moyens de lutter, parce qu'au début on ne sait pas identifier la raison de la maladie et du coup on utilise absolument toute la panoplie, des choses rationnelles mais d'autres beaucoup moins.
Mais c'est très intéressant parce que virus est un concept nouveau en 1918. Les premiers virus ont été découverts à la fin du 19e et donc presque tous les médecins du monde croyaient qu'il avait affaire à une maladie bactérienne.
Donc ils essaient de faire pousser ce virus et rien ne pousse.
Exactement. Sauf qu'il y a un problème en plus qui est que les lésions que crée le virus dans les poumons humains sont surinfectées après, souvent par les bactéries. Donc quand les médecins de l'époque regardent sous leur microscope le tissu pris des morts, ils voient beaucoup de bactéries. Mais pas de virus parce que le virus est beaucoup plus petit et on voit pas sous un microscope optique. Donc ils sont confirmés dans leur tort, dans leur erreur. Et même s'ils avaient su que c'était un virus, ils n'avaient pas de médicaments pour lutter contre ce fléau.
Alors donc, de l'aspirine par
pas
exemple.
Oui. Alors pas de vaccin contre la grippe, pas d'antibiotiques, pas de médicaments antiviraux. Ils avaient effectivement l'aspirine, mais à part ça, pas grand chose. Et en fait, le truc qui a fait la plus grande différence, qui a sauvé les vies, c'était de soigner les patients, c'était de les garder au chaud, de les hydrater. C'était les infirmières qui étaient beaucoup plus importants à l'époque que les médecins.
On va écouter le témoignage, Sophie Becherel, d'un épicier qui s'appelle Lucien Legrand, qui était épicier à Paris. Il avait 3 ans en 1918 et en 1985, il témoignait au micro de France Culture.
Les gens de ma classe ont été conçus en 1915, en gros. Et mon père était reparti à la guerre. Et après, il y a eu 1917, ça a été affreux, ça a été la fièvre espagnole. Mais on enterrait la nuit, sans cercueil, dans des voitures à chevaux, et qui passaient de maison en maison, qui ramassaient les cadavres, et on les enterrait en fosse commune. C'est l'histoire que personne ne raconte, parce que c'est encore couvert par une sorte de secret militaire, hein. Mais il y a eu quand même des milliers et des milliers de gens qui sont morts à Paris. Ça a été terrible. Avant qu'on ait remédié à... Parce qu'on l'a enrayé, l'épidémie. Mais avant qu'on l'ait enrayé, ça a fait du dégât. Donc on était nés dans une période de mort.
Voilà, Lucien Legrand, témoignage autour de la grippe espagnole à Paris.
Vous racontez que, en fait, si on avait été assez égoïste, on aurait épargné pas mal de vies. Or là, les gens se sont montrés très empathiques vis-à-vis des malades. Donc il y avait aussi une propagation de la maladie par contact. puisqu'on ne comprenait pas au fond comment ça se propageait.
Oui, c'est vrai, mais c'est une maladie évidemment très contagieuse. Donc, le comportement le plus rationnel, si vous voulez, c'est de rester chez soi, de ne pas aller dans les endroits publics, de ne pas se mêler avec d'autres. Mais je pense qu'on a un instinct un peu irrationnel dans ce genre de situation, c'est-à-dire que effectivement, on est assez altruiste. Finalement, on s'entraide. Et dans une autre situation, comme par exemple un tremblement de terre, je sais pas, une éruption de volcan, ça sera rationnel d'aider les autres, en fait, de rester en groupe, rester solidaire. Mais là, dans une épidémie, non, c'est pas la chose la plus rationnelle à faire. Il faut se séparer des autres.
Le sous-titre de votre livre, c'est une épidémie qui a changé le visage du monde, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'on a oublié, mais cette pandémie nous a privés de beaucoup de personnalités qui sont mortes de la grippe espagnole.
De personnalités, oui. Par exemple, en France, d'Apollinaire et de Rostand. On marque cette année aussi, évidemment, le centenaire de leur mort. En Autriche, Egon Schiller, parmi les chefs d'État, on avait Woodrow Wilson, qui était très important dans les négociations de la paix à Paris en 1919. C'était presque le seul modéré. Donc là, ça avait une influence importante. Mais aussi Gandhi, par exemple. Egon Schiller, est-ce que j'ai déjà mentionné?
Oui, absolument.
Alors justement, Gandhi, vous dites que finalement, cette grippe espagnole, elle a rapproché l'Inde de l'indépendance. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion?
C'est assez intéressant parce que Gandhi, à cette époque-là, avait 48 ans. Ça faisait 3 ans qu'il était de retour de l'Afrique du Sud. Donc, les gens parlaient de lui comme chef d'État, mais seulement dans les cercles intellectuels, un peu politiques, les élites, quoi. Donc, il n'avait pas de soutien de base. Justement, au moment où la pandémie s'est éclatée en Inde, il n'y avait pas d'infrastructure de santé publique parce que les Anglais n'avaient pas prévu ça. Et donc, ils s'en fichaient un petit peu, malheureusement. Donc, ils ont vu cette urgence. Ils ont fait appel à beaucoup d'associations locales, de communautés, de castes pour leur aider à contenir ce fléau. Et donc, beaucoup de ces associations qui avaient en général des liens avec le mouvement national de l'indépendance se sont mis ensemble pour soigner les gens. Et donc, ils ont fait des contacts entre eux qui n'existaient pas avant. Et donc, il y avait une sorte de coalescence de ce mouvement de base de ces associations derrière Gandhi qui s'est manifesté après dans les grèves, quand il a appelé les gens à aller en grève. Il avait, après la pandémie, par exemple, des centaines de milliers de personnes et pas des milliers de personnes comme avant.
Aujourd'hui, dès qu'un virus de la grippe arrive, on sait l'identifier, on prépare un vaccin. À quelle époque on identifie ce virus de la grippe espagnole comme le H1N1 et est-ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle épidémie?
Donc, la pandémie elle-même a donné un sérieux coup de pousse à la virologie. Donc, on a identifié le virus de la grippe dans les années 30 et puis après, on a compris que c'était une grande famille de souches très différentes parce que le virus mute très facilement, le virus de la grippe. Et donc, après, dans les années 90, on a séquencé le génome du virus, puis on a recréé le virus, qui était très controversé parce que, voilà, ça n'existait
avec les risques que ça représentait.
Exactement,
aussi.
Exactement. Et donc, il vit, si vous voulez, dans un laboratoire de haute sécurité.
Absolument.
Aux États-Unis. Et on étudie pour comprendre la virulence de la pandémie, pour créer les meilleurs vaccins.
Voilà, donc ce livre s'appelle La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde.
Très belle enquête.
Laura Spinet, vous en êtes l'auteur. Merci. Et c'est sorti chez Albin Michel. Un coup d'œil sur l'agenda des sorties scientifiques du week-end, Sophie Bécherel.
Oui, pourquoi ne pas aller au musée de la préhistoire Grand Précigny dans l'Indre-et-Loire. Vous le connaissez, Mathieu?
Non,
ah,
justement.
Alors en ce moment, je vous le recommande vivement, c'est un magnifique établissement. En ce moment, il y a une exposition temporaire qui dure jusqu'au 30 novembre et qui s'intitule L'archéologie à grande vitesse. Ça s'intéresse à ce que les archéologues ont trouvé lors du tracé de la ligne grande vitesse vitesse Paris-Bordeaux. Donc là, ce sont les 300 km qui séparent Tours et Bordeaux. Et donc, ces fouilles préventives ont permis de remonter le cours de l'histoire sur 400 000 ans. Au-delà de cette exposition temporaire, donc, je vous invite à voir ce musée absolument magnifique qui présente des collections de silex uniques en France, ces très grandes lames taillées, par exemple préhistoriques, qui, en plus d'être bluffantes, sont esthétiquement très très belles. Dans l'Aube, ce week-end, on se déplace vers l'Est, on peut aller à Troyes, c'est votre GPS, vous tapez Hôtel Dieu le Comte et vous tomberez sur le trésor de Lavaux. Ce trésor, c'est encore le résultat d'une fouille préventive archéologique. Quand il a fallu agrandir un centre commercial, les archéologues ont trouvé une tombe princière avec de très très beaux objets qui ont été restaurés et dont les premiers sont présentés donc au musée de Troyes. C'est tout à fait magnifique, il y a un torque, c'est-à-dire un tour du cou en or, un bracelet, une cuillère percée, c'est très très beau, en plus d'autres objets préhistoriques de l'Aube.
Et un dernier rendez-vous.
Oui, dans le Pas-de-Calais, à Lens. Pourquoi ne pas aller voir le linceul de la momie? C'est une des pièces récentes acquises par le Louvre. Elles sont montrées avec les trois autres donc jusqu'au 1er octobre. Donc c'est pas des bandelettes, hein. C'est un linceul sur lequel il y a des formules magiques destinées à repousser les serpents et des extraits des textes des sarcophages. Bref, c'était comment les Égyptiens enrobaient les cadavres. Et puis il y a aussi d'ailleurs un autre objet lié à la science. C'est un globe céleste iranien du début du XVIIIe siècle qui est très très joli et qui montre la proximité avec l'Europe à l'époque, parce que ce sont des dessins qui ne sont pas spécifiquement arabes, mais plutôt européens.
Toutes les infos sur l'agenda du week-end scientifique sur franceinter.fr, sur la page de la Tête au Carré. Dans un instant, une autre formule, pas forcément magique, c'est le nombre pi.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emmerich Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Pa, 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 Paris et sa couronne, Paris, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bédonville à la verticale, les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne.
L'hiver indien, c'était Balogi dans la Tête au Carré.
Le club sur France Inter.
Jean-Paul Delahaye, dernier invité de ce club avec le fascinant Nombre Pi, un livre que vous signez, qui paraît aux éditions Albin Michel. Vous êtes chercheur au centre de recherche.
C'est pas Albin Michel.
Oh pardon, chez Belin. Il manquait plus que ça.
C'était
le précédent. J'imagine votre éditeur qui est en train d'écouter l'émission.
Voilà, moi.
Voilà, donc je vais le dire 10 fois plus. C'est chez Belin, voilà, avec ce livre, vous qui êtes chercheur au centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille et professeur émérite à l'université de Lille. Alors c'est une version augmentée, vous aviez déjà travaillé sur le Nombre Pi en 99.
Oui, c'est ça. Donc, il y a une première version de ce livre qui est paru. Mais les choses évoluent, les calculs se perfectionnent, s'allongent. Et puis, on trouve de nouveaux résultats. Et puis, il y a de nouveaux nouvelles anecdotes aussi à raconter.
Exactement.
Donc j'ai repris le livre, je l'ai mis à jour et j'ai rajouté 3 chapitres.
C'est ça. Voilà. Qui autour de cette table est capable de nous donner quelques décimales de pi après 3,14 évidemment? Laura Spinet, est-ce que vous en connaissez une ou deux de plus? Au moins une ou deux,
non,
allez.
Non,
même pas. Laure Vatrin.
Pas de 7.
Après 3,14, non, c'était bien tenté, mais
pour
non.
Essayer.
C'est ça. Sophie. Voilà, 3,14, 159, 26, 535, blabla. Combien vous en connaissez, vous, de décimales,
Jean-Paul? Mais moi, je ne sais pas les réciter. J'avais réussi à en apprendre 20.
C'est déjà pas mal.
Mais
hein.
Non, je connais 3, 14, 159, ouais. 26, et puis après, je suis.
Voilà. Il y a des concours, hein.
Oui, alors il y a une sorte de record continu, donc des gens qui essaient d'en apprendre le plus possible. Quand j'avais fait mon premier livre, le record était aux alentours de 5000, je sais plus, 4500 je crois,
oui.
Et maintenant c'est 10 000.
C'est incroyable, c'est Daniel Tammet aussi hein, qui avait, je crois, récité les décimales
oui,
depuis.
Oui, ça fait partie des exploits que les calculateurs prodiges, et donc aussi les mémorisateurs prodiges, essaient d'égaler.
Ouais. Explorer pi, c'est comme explorer l'univers, dit David Chudnovsky, mathématicien ukrainien. Et son frère, Grégory, ajoute, ou plutôt explorer le monde sous-marin, car nous sommes dans la vase et tout semble sans forme. C'est ça,
oui,
le nombre pi?
Oui, alors il y a une raison pour laquelle il dit ça, c'est qu'en fait, quand on regarde les décimales de pi, qu'on a calculé aujourd'hui jusqu'à 21 000 milliards.
Ouais.
21 000 milliards.
Ça, c'est des ordinateurs,
22 000
évidemment.
Milliards, c'est moi, 22 000 milliards. Donc, quand on les regarde, ces décimales se présentent comme si c'était des chiffres tirés au hasard, avec un dé à 10 faces qu'on aurait lancé le long de fois qu'il faut. Et on ne sait pas du tout démontrer ça. Donc en fait, les décimales de pi se présentent comme si elles venaient au hasard, donc comme une sorte de vase de désordre complet, alors qu'en fait, elles proviennent de quelque chose qui est tout à fait ordonné. Il y a des formules relativement simples pour définir pi, et donc en fait, il y a quelque chose de très ordonné dans la définition de pi, ne serait-ce que la définition géométrique à partir du périmètre et du diamètre.
Mmh.
Et quand on calcule les décimales, on obtient quelque chose qui est totalement mystérieux. Et qu'on ne maîtrise sur un plan mathématique très mal. On ne sait pas démontrer, par exemple, qu'il y a une infinité de zéros dans les décimales de pi.
Ouais.
On ne sait pas démontrer ça.
Ouais.
Ce qui est une chose, alors qu'il y en a à peu près un dixième. Quand,
ouais.
quand on fait des statistiques sur les décimales qu'on connaît, il y en a à peu près un dixième. Pareil pour les 1, pour les 2, etc. Et on ne sait pas démontrer qu'il y a une infinité de zéros.
Ouais.
C'est quand même étonnant.
C'est agaçant, ce mystère.
Oui, c'est agaçant.
Mais ça rend fou les mathématiciens. Il y a des vraies pathologies autour des mystères, pas que du nombre pi d'ailleurs, mais autour de la quadrature du cercle, par exemple.
Ah oui, alors ça, c'est une très vieille histoire. Donc, ça commence avec Anaxagore qui... alors, l'histoire, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut lui faire confiance. Il est emprisonné parce qu'il a affirmé que la lumière de la Lune provenait de la réflexion du Soleil.
Ouais.
Sur quoi il avait raison.
Ouais.
Et donc il s'ennuie et il se pose le problème de dessiner un carré qui a la même R qu'un cercle donné. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de la quadrature du cercle. Alors les règles sont un peu plus précises, on ne dispose que d'une règle et d'un compas, et on doit faire des tracés qu'on imagine parfaits, et puis donc on va dessiner des droites qui s'intersectent, des cercles qui s'intersectent, et au bout d'un certain temps, à partir du cercle qui est donné au départ, on doit réussir à trouver un carré qui a la même aire que le cercle de départ.
Mmh.
Et donc pendant 2 millénaires, hein, on s'est intéressé à ce problème. Et la solution, quand même, les mathématiciens sont parfois patients et tenaces. La solution est venue à la fin du 19e siècle, où Ferdinand von Lindemann a démontré que pi est transcendant. Alors, comme conséquence, hein, je peux vous dire ce que signifie transcendant, mais comme conséquence, il y a que le problème de la quadrature du cercle tel qu'il était posé n'a pas de solution.
Ouais.
Donc aujourd'hui, il y a encore des gens.
Et ça rend dingue.
Oui, hein. Oui. Alors aujourd'hui, il y a encore des gens qui prétendent en quelque sorte résoudre le problème de la quadrature du cercle, mais bon, c'est pas sérieux en général. Enfin non, ce n'est jamais sérieux parce qu'on a démontré que c'est faux. Et moi, j'ai reçu des lettres, en particulier après la première version de mon livre, de gens qui m'ont proposé des versions qui aurait résolu la quadrature du cercle, et en particulier des formules avec des racines pour qui aurait donné la valeur exacte de pi.
Vous avez pris le temps d'étudier justement leur proposition.
Ah oui, bien sûr, je les ai lus.
Et donc c'était faux en réalité.
Ah oui, c'est nécessairement faux, sauf si Lindemann et tous ceux qui ont vérifié ces preuves, et moi-même d'ailleurs, se sont trompés. Mais quand on regarde en détail, en général, c'est jamais très sérieux. C'est des raisonnements qui sont approximatifs, qui ne tiennent pas.
Enfin, c'est... Et donc le Morbus cyclométrus, c'est une maladie liée justement au fait de jamais pouvoir résoudre la quadrature du cercle.
C'est ça. Sur ceux qui sont obsédés par ça.
Allez, on va écouter un extrait du film Pi, justement, qui était sorti en 1998. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Paul Delahaye.
Oui.
Voici un extrait.
Quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir il y a 30 ans, mon élève le plus doué. Publié à 16 ans, un doctorat d'État à 20 ans, mais la vie ne se nourrit pas de mathématiques. J'ai passé 40 ans à examiner Pi à la recherche d'une séquence. Je n'en ai pas trouvé une seule.
Mais tu n'as pas fait ça pour rien.
Non, j'ai avancé. Mais pari perdu, pas de séquence.
Pas de séquence. Comment est-ce qu'on peut douter de l'existence d'une séquence, d'un système ordonné derrière les chiffres, quand on l'a sous le nez ? L'extrême simplicité du cercle opposée à l'extrême complexité de cette série de chiffres interminables, 3,14 jusqu'à l'infini.
Voilà Darren Aronofsky pour ce film Pi, donc en 1998. C'est un bon résumé finalement de ce qu'est Pi ? Un nombre simple avec...
L'extrait qu'on vient d'entendre.
C'est ça,
oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est un nombre qui est simple. Alors, c'est exactement, on se pose la question de savoir est-ce que le nombre pi est complexe. Alors, c'est une question qui a un vrai sens mathématique. La réponse est non. Le nombre pi est simple parce qu'il a des définitions simples. Et finalement, quand on veut définir ce qu'est un objet complexe, on va dire ce sont des objets qui n'ont que des définitions longues. Et donc, par exemple, une vraie suite aléatoire qu'on aura obtenue par un lancer de dés de longueur 1 million, elle va réellement être complexe parce qu'il n'y a aucun moyen de l'exprimer plus rapidement que d'énumérer les chiffres les uns après les autres. Alors que pi, 1 milliard de décimales de pi, on peut écrire une formule de quelques lignes, même pas en fait, si on prend une formule de série, qui va préciser... suffisamment, il y aura des calculs à faire pour tirer les décimales, mais qui va préciser ce milliard de décimales de pi.
Jean-Paul Delahaye, pourquoi au fond est-ce que ce nombre fascine autant donc les mathématiciens comme vous, alors au point d'en écrire des ouvrages chez Belin, par exemple.
Il fascine. Alors le nombre racine de 2, par exemple, ou racine de 5, ou le nombre d'heures, ce sont des nombres aussi qui sont intéressants. Mais le nombre pi, d'abord, il a eu dans l'histoire une importance parce qu'on le découvre naturellement dès qu'on s'intéresse à un cercle.
Donc il y a des écrits qui datent de 4000 ans, on évoque déjà pi. Hein.
Oui, alors on parle pas de pi, mais on décrit des procédés pour calculer l'aire d'un disque, mm-hmm. qui font intervenir des formules où, de manière implicite, pi est présent. Et donc pendant le problème de la quadrature du cercle, c'est l'exemple même qui prouve la difficulté qu'il y a associée à pi. Racine de 2, on sait le construire, on sait démontrer facilement que c'est un nombre irrationnel. Pi, il a fallu attendre 2000 ans pour qu'on sache que c'était un nombre irrationnel, mais plus que ça, un nombre transcendant. C'est-à-dire un nombre qui est solution d'aucune équation polynomiale simple.
Alors j'aime beaucoup parce que vous désinguez le nombre d'or dans votre livre. Ça, c'est très amusant, puisque évidemment, vous êtes un amoureux de ce nombre pi. Mais alors le nombre d'or, vous dites, c'est le préféré des snobs et des naïfs qui pensent qu'il donne le secret de la beauté, alors que c'est plus que douteux.
Oui, alors il faut être un petit peu prudent. Le nombre d'or intervient en mathématiques. On le rencontre aussi naturellement. Mais d'abord, il se laisse en quelque sorte attraper facilement. On sait trouver des équations qui le donnent. On sait le calculer aussi loin qu'on sait calculer pi, même si on fait pas l'effort de calculer aussi loin. Maintenant, savoir s'il est vraiment associé à des propriétés esthétiques que doivent respecter les peintres dans la proportion des rectangles, des tableaux, etc. Ça, c'est une sorte de mythologie. C'est une sorte de mythologie.
Pour terminer, Jean-Paul Delahaye, vous dites aussi que finalement pi fascine parce qu'il apparaît de façon inattendue, que ce soit en mathématiques, en géométrie ou en arithmétique.
Exactement, en probabilité, on rencontre pi en arithmétique.
Donc il est là comme ça.
Il est là, il est une sorte d'ubiguïté du nombre pi. On comprend difficilement pourquoi, ou plutôt la réponse la plus simple, mais elle va pas éclairer forcément beaucoup, c'est de dire comme il est simple, on le retrouve dans beaucoup d'endroits, puisqu'il va apparaître naturellement, comme le nombre racine de 2 apparaît dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de problèmes mathématiques ou physiques, parce que racine de 2, c'est quelque chose qui est simple, qui a des définitions simples. Pi, il y a des définitions un petit peu plus compliquées, mais comme il est présent en géométrie, on va le retrouver aussi naturellement dans beaucoup d'endroits. Mais il y a quand même une sorte de mystère dans cette ubiguïté.
C'est ça, voilà. Donc le nombre pi qui fascine les mathématiciens, le nombre d'or qui est snob, donc c'est plutôt le nombre d'or pour les bobos, hein, et puis le reste, donc c'est pi à étudier pour ceux qui s'intéressent aussi aux histoires. histoire mystérieuse, le fascinant nombre pi. Donc c'est publié aux éditions Belin. Merci beaucoup à tous d'être venus cet après-midi dans le club. Je rappelle donc ces ouvrages, Les 100 mots des bobos avec Thomas Legrand, c'est paru aux éditions Que sais-je. Et puis La grande tueuse, conseillée chaudement par Sophie Bécherel, cet ouvrage de Laura Spinet, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Toutes les infos sur le site de La Tête au Carré.